Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui Lou Ferron, curatrice, autrice et traductrice indépendante basée à Paris. Ses recherches explorent les liens entre art contemporain, littérature, en particulier poétique, expérimentale et féministe, et enjeux politiques. Elle porte une attention particulière au médium du texte et à l'écriture en tant qu'outil d'émancipation. En 2023, elle a mené une résidence de recherche au CCA de Berlin et elle est actuellement lauréate de la bourse curatoriale des Mécènes du Sud ainsi que d'une bourse de recherche en théorie et critique d'art du CNAP pour son projet A Gambling Study. Elle est également membre de l'espace artistique 13 à Paris où elle a récemment organisé une exposition personnelle de l'artiste Penny Goring. Aujourd'hui, elle va nous parler de l'exposition Monopolis qu'elle présente à Mécènes du Sud à Montpellier. Une proposition nourrie par l'œuvre de la poète et essayiste américaine Anne Boyer, née en 1973 dans le Kansas et désormais basée en Écosse. L'œuvre d'Anne Boyer se déploie à la croisée de la poésie marxiste, féministe et expérimentale. Parmi ses ouvrages les plus connus figurent A Handbook of Disappointed Faith et Garments Against Women, ou encore Celle qui ne meurt pas, Laura du prix Pulitzer de l'essai de 2020. Jusqu'en novembre 2023, elle était par ailleurs rédactrice en chef de la section poésie du New York Times Magazine, dont elle a démissionné pour protester contre la ligne éditoriale du journal qu'elle estime complice de la politique d'apartheid menée par les États-Unis. Puis, l'entretien avec Lou Ferron sera suivi d'un extrait sonore de l'œuvre A Mark of Resistance de Mira Kalix. Mira Kalix est compositrice et artiste sud-africaine, née en 1969 et disparue en 2022. Pour Mira Kalix, le son était un matériau sculptural au cœur d'une pratique multidisciplinaire mêlant installation, vidéo, performance et sculpture. Sa recherche, sensible au lieu et au contexte, l'a conduite à explorer des formes mouvantes, collaborant avec des musiciennes, danseuses, scientifiques, architectes ou encore cinéastes, à la frontière entre art et technologie. Mais écoutons maintenant Lou Ferron nous parler de l'exposition Monopolis.
Grammaire fantôme.
Bonjour Nadia.
Tu viens d'arriver ?
Je suis arrivée il y a 4 heures.
Tu commences demain à monter une exposition.
Exactement, je commence même ce soir, très tard. pour des raisons purement logistiques, mais bon, le vrai du travail commence en effet demain à monter l'exposition Monopolis à Mécènes du Sud. Avant de faire de l'art, j'ai vraiment fait des études littéraires. Donc c'est ça mes premiers amours, on va dire. Enfin, c'est vraiment le texte, l'écriture, la littérature. Et je me suis spécialisée un peu plus tard vers l'art contemporain avant de faire vraiment un master là, très spécialisé en études curatoriales que j'ai fini il y a 6 ans maintenant. Donc ça fait 6 ans que je suis diplômée et 6 ans du coup que je travaille comme curatrice indépendante mais aussi autrice et aussi traductrice, relectrice. Je fais de la coordination éditoriale. Enfin, j'ai l'impression que ce qui lie un peu toutes mes différentes pratiques, même s'il y en a qui sont bien sûr peut-être plus économiques que principales, on va dire, c'est le texte. C'est vraiment le dénominateur commun entre à peu près tout ce que je fais. Donc, mes études littéraires qui doivent ressurgir, qui ne sont jamais très loin.
Et est-ce que tu es critique ?
En fait, je le qualifierais jamais comme tel, même si bien sûr j'écris parfois des textes critiques. Mais je ne me qualifierais pas du tout de critique d'art. Je pense que autrice me va mieux, surtout que j'ai l'impression de plus en plus ces derniers temps, de même quand je suis invitée plutôt à écrire des textes qui pourraient s'apparenter à de la critique, de le faire de manière peut-être légèrement plus expérimentale ou avec un vocabulaire qui... Je sais pas. Du coup, non, je dirais pas du tout critique d'art. Oui. Et en même temps, j'ai rien contre. Enfin, c'est vraiment... C'est pas une opposition. C'est pas... J'ai aucun problème avec la critique d'art en tant que telle. Mais c'est juste une question de comment je me présenterai. Ouais.
Alors, Métropolis.
C'est Métropolis. Évidemment très... Enfin, c'est fait exprès. Enfin, c'est complètement induit que les gens entendent aussi... Métropolis, parce que l'idée c'était vraiment d'avoir un nom de ville fictive et Monopolis en est un comme ça pourrait être et ça a failli être potentiellement Métropolis, ça aurait pu être un nom en fait qui désigne rien de trop connoté dans l'imaginaire collectif mais qui en même temps peut évoquer ce fantasme un peu de la ville occidentale néolibérale. Donc Monopolis, Métropolis, c'est complètement des équivalents.
J'ajouterais Monopoly.
Absolument. Est-ce que l'expo parle directement d'argent ? J'en sais rien, mais en tout cas, elle parle de ville. Et du coup, elle parle aussi de la transformation des villes, donc des processus aussi de gentrification, donc j'imagine de monopole. Enfin, tout ça est bien présent. Ça me vient vraiment d'un texte, enfin de deux textes en fait, de la même autrice, qui est une poète qui s'appelle Anne Boyer. Qui est une poète états-unienne qui vit maintenant en Europe, en Écosse. Et deux textes différents de deux moments de sa carrière. D'une part, un fanzine de poésie qui s'appelle Money City Sick as Fuck. Donc là aussi, on est vraiment dans l'imaginaire de la ville occidentale, enfin de la police, donc le suffixe quoi, de Monopolis. Et c'est des poèmes qui sont vraiment des petits fragments qui s'apparentent presque à des tweets où elle décrit... un peu le grésillement des grandes villes et qui, moi, m'a énormément plu. Et après, donc ça, c'est, elle l'a écrit en 2013. Il n'existe qu'en anglais. Et 10 ans plus tard, elle a quand même une brillante carrière et elle était du coup rédactrice en chef du New York Times Magazine, pardon, rédactrice en chef de la rubrique de poésie. Et elle a démissionné de ce poste-là en novembre 2023, donc 10 ans après le premier fanzine, en opposition avec la langue peut-être un peu trop normée que prendrait le journal, le New York Times, enfin, là c'est le magazine, mais bon c'est un peu la même chose, notamment face à la guerre en Palestine, où c'est toute une lettre, c'est sa lettre de démission qu'elle écrit, mais c'est une poète qui écrit une lettre de démission, donc évidemment y a un usage assez... percutant et frappant des mots, et où elle reproche... elle dit qu'on se situe à une époque où peut-être qu'on peut plus se permettre un langage qui serait trop neutre ou qui serait trop aseptisé, et qu'en fait, le langage doit servir à se positionner. Et cette lettre était une réponse que j'ai trouvée tellement parfaite, tellement belle, toute l'actualité de ce moment-là, de l'automne 2023, après le 7 octobre. Et c'est ces deux moments qui ont servi d'impulsion à l'exposition, où du coup je me suis mise à réfléchir sur quelle est la place du langage poétique dans le langage de l'actualité, dans le langage du journal. Et en fait, elle finit sa lettre de démission en disant que si elle démissionne, ça conduit à laisser un trou dans le journal de la taille de la poésie. Et j'avais cette image en fait qui m'a habitée, mais vraiment pendant des mois, même bien avant d'écrire ce projet d'exposition pour Médecins du Sud. Je me disais, mais c'est fou, ce vide dans le journal de la taille de la poésie. À partir de là, du coup, je me suis interrogée sur le collage, comment on vient découper dans une matière existante, quels sont les vides qu'on laisse, les pleins qu'on crée ailleurs, à l'équivalent littéraire du collage, qui est du coup le cut-up. Et voilà, et donc ça part vraiment de là. Encore une fois, ça part du texte, finalement, pour aller vers l'art. Et après, il y a plein d'œuvres qui sont... ni du collage à proprement parler, ni du cut-up, ni de l'écriture, mais en tout cas qui rejoue, je pense, toute au moins la métaphore de venir prélever dans une manière existante et de la rejouer différemment en réponse potentielle à l'actualité. Mais parfois c'est très loin, hein. On sent beaucoup moins l'actualité, mais...
Oui, c'est parce que le projet est né quand exactement ?
Très doucement, et je pense qu'au moment de faire la candidature du coup pour cette bourse curatoriale à Mécènes du Sud, en fait tout était déjà là, et c'était plus qu'une question d'articulation d'un propos et de sensations et d'intuition, et après de composer une liste d'artistes
Donc ça, c'était à quel moment?
Il y a un an, mai 2024. Donc il y a vraiment un an pile poil. Assez rapide. Après, je pense que c'est marrant, même je relis des carnets, enfin tu vois, je vois en fait que rien que le titre Monopoly, c'était là depuis très très longtemps, sans que je sache que c'était le titre. Tout était un peu en, mais comme d'habitude, j'imagine, en latence, n'attendant que l'occasion pour se construire, quoi.
Mercredi, c'est le vernissage.
Oui.
Des choses formatives ont lieu.
Alors, c'est un des seuls médiums qui n'est pas présent dans l'exposition. Pourtant, il y en a quand même pas mal. Il y aura des vêtements, il y aura des clips, de la musique, de la sculpture, du texte. Du coup, on a traduit aussi à l'occasion de l'exposition les poèmes en question dont je parlais de Anne Boyer avec une artiste qui s'appelle Mona Barichon et la graphiste de l'exposition Manon Michel. Donc, on s'est réunis en groupe de travail en plus pour proposer cette traduction collective. Et du coup, les artistes, je peux les citer peut-être. Donc Anne Boyer, que j'ai nommée. Mira Kalix, qui est une musicienne expérimentale sud-africaine qui est décédée il y a 2 ans et qui a beaucoup questionné le collage dans la musique. Ben, on pense évidemment à la question du sample, mais voilà, du coup, des clips de Mira Kalix. Thelma Capello, qui est musicienne et plasticienne, avec qui on avait déjà travaillé. C'est le cas, en fait, de la moitié de la liste d'artistes. C'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Et du coup, avec qui ça ouvre un nouveau chapitre dans la collaboration et d'autres pour qui ça va être la première fois. Du coup, je trouve ça assez enthousiasmant, le mélange. Uruk, aussi connu sous le nom de Annelies Kost, qui va montrer une installation. Penny Goring, artiste britannique avec qui, pareil, j'avais déjà travaillé. On a fait une grosse exposition monographique de son travail à l'automne dernier. Du coup, je trouvais ça aussi hyper réjouissant de poursuivre. Mais j'imagine que c'est le cas dans beaucoup de collaborations entre artistes et curateurs, curatrices. Cette envie d'étendre une relation à plusieurs années, plusieurs facettes, pouvoir aller plus en profondeur. Mona Barichon, que j'ai cité, qui va montrer un film, et Women History Museum, qui sont un duo de créatrices de mode, de vêtements. Et j'oublie bien sûr la meilleure pour la fin, non pas la meilleure, mais Raphaël Moreno, que tu as déjà interviewé, qui pour le coup là c'est vraiment une collaboration de très longue date qui a pris beaucoup de facettes différentes entre Raphaël et moi. Donc voilà, nouveau chapitre aussi.
Qu'on a déjà vu dans une expo précédente.
Ouais, et du coup l'exposition curatée par Ethan Asselin et Devrim Bayard. Et Ethan, Raphaël et moi, on a en fait fait des expositions ensemble, on travaille ensemble et surtout on a une relation amicale et affective, enfin très forte ensemble. Et du coup, Ethan avait choisi d'inviter Raphaël dans son expo. Je m'étais posé la question, est-ce que ça fait sens de réinviter la même artiste, enfin, dans une expo différente, mais au même endroit. Et en fait, peut-être je me trompe, mais que la réponse est oui, et que ce sera Raphaël va présenter une autre facette de son travail. Et oui, il y a ce truc de, je pense, de fidélité, ou en tout cas d'échanges qui sont tellement quotidiens, qui sont tellement permanents, qu'on s'influence mutuellement, je pense, et que du coup, j'avais pas forcément prévu dès le début. Et en fait, on parlait tellement ensemble des sujets de l'exposition, des médiums, du collage, etc., que c'est venu assez naturellement.
Et et comment vous échangez, plutôt par mail ou est-ce que vous voyez?
Non, on se voit là, franchement, quasiment, non, peut-être pas tous les jours, mais de manière vraiment hebdomadaire, et texto, et appel. non, c'est assez.
Donc c'est très intense.
Ouais.
Et comment les nouvelles personnes sont advenues? C'est des gens dont tu as vu le travail
Ça, vraiment, c'est au cas par cas, enfin, ça va vers, y a tous les degrés. Et oui, du coup, il y a quand même cette clique, mais qui est plutôt une somme de plusieurs amitiés, qui n'est pas du tout un collectif, ou je veux dire, enfin, c'est pas une bande préétablie. J'espère qu'elle a quand même vocation à être très poreuse et à pouvoir intégrer. Enfin, je veux dire, on a chacune nos pratiques qui sont complètement individuelles et par ailleurs des échanges. Et les autres. Donc, il y a Penny Goring, avec qui j'ai déjà travaillé, mais qui, elle, a 62 ans, qui est vraiment une autre génération, un autre pays, une autre vie, enfin, complètement. et dont j'étais tombée sur le travail. Et voilà, vraiment, c'est à plein de niveaux différents. Et il y en a que j'ai jamais rencontrés, dont j'ai juste découvert le travail à distance. Et j'étais hyper curieuse de pouvoir entamer une relation à ce moment-là. Enfin, il y a tous les degrés de niveau de collaboration déjà entamée ou complètement inédite, avec aussi l'envie, et j'imagine comme beaucoup d'expositions collectives, et que potentiellement des rencontres puissent advenir entre les artistes qui se connaissent. Enfin, j'imagine que c'est un peu ça, curater aussi, c'est se dire, bah, ça se trouve, ça va créer des... Mais qui m'intégreront même plus, quoi. Mais des nouvelles rencontres, quoi.
Oui.
Entre des pratiques et des personnes. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de vivre une période compliquée, que ce soit à l'échelle, bah, bien sûr, du monde, de l'actualité, enfin, de la politique, et à la fois, enfin, essayer de naviguer dans un monde de l'art qui peut potentiellement être parfois très hostile et pas facilement navigable. Et du coup, enfin, je pense qu'on s'est rencontrés à un moment où on était tous et toutes légèrement un peu plus jeunes, avec beaucoup de questions, et je pense qu'on s'est un peu aidé à naviguer, en fait. Enfin, et je pense pas qu'on ait complètement réussi, enfin, dans le sens où, bien sûr, les doutes continuent d'être quotidiens et tout, mais je pense que on a besoin d'être ensemble, quoi. On a besoin de dialoguer, on a besoin d'échanger, on a besoin de se conseiller. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ce truc de conseil qui est très présent, même si on peut travailler sur des choses très différentes, se montrer sur quoi on travaille. Enfin, maintenant, on commence à connaître nos pratiques. Du coup, c'est... voilà. Mais une fois de plus, c'est très ouvert. Enfin, je veux dire, j'espère qu'on n'est pas non plus que associés ensemble. Et on a vraiment aussi nos amitiés, nos collaborations, nos relations de notre côté.
Et Polis, ça réfère aussi à la... Police grecque.
Oui, de la ville, ouais, absolument. Donc, ça, c'est quand même une autre composante assez forte de l'exposition, qui est la ville. Du coup, comme je le disais, une ville qui serait fictive, voilà, mais qui parlerait un peu des fantasmes, et de la violence, et de la brutalité, de la vitesse, de la ville occidentale. Oui, je dis tout le temps néolibéral parce que je pense que ça s'inscrit vraiment dans un système économique qui est celui du néolibéralisme, etc. Et du coup, de voir... Après, c'est pas du tout une approche genre sociologique de la ville. Enfin, j'ai lu, évidemment, des livres dessus, mais je pense que c'est un truc beaucoup plus aussi fictionnel, quoi. Enfin, mais en tout cas, j'avais peut-être besoin d'une situation d'énonciation, presque d'un décor, même si je suis pas sûre que l'exposition soit non plus... il y aura pas la scénographie d'une ville, et c'est beaucoup plus induit par le texte, ça se voulait être une proposition un peu de fiction, mais rien de trop didactique ou d'obligatoire. Par exemple, il y a Thelma Capello qui a écrit un texte à l'occasion de l'exposition où elle invente elle aussi une ville imaginaire, mais qui se situerait presque à une époque médiévale, parce qu'en fait les tropes et problématiques liées à la grande ville finalement sont très anciens aussi, avec des phénomènes d'inclusion, d'exclusion, de fortification, du coup elle s'est inspirée presque de la Vérone de Shakespeare ou de Venise pour créer sa propre ville, du coup comme si ça crée un gap spatio-temporel entre Monopolis et sa ville qui s'appelle Medioevo, si je la prononce correctement. Après, il y a, je pense au film aussi de Mona Varichon où, en fait, elle s'inspire de Jonas Mekas qui a fait des Weather Diaries pour parler du monde avec la météo comme fil narratif. Et où elle a collecté plein de stories Instagram où on voit la météo soit comme arrière-plan, soit comme métaphore même. Les gaz lacrymaux des manifs deviennent comme les nuages ou en tout cas assez atmosphériques et climatiques. Et pareil, je pense qu'à travers son travail, qui est vraiment un travail de montage, de découpage, une fois de plus dans une matière déjà existante que sont les stories Instagram, elle réussit à écrire un récit du monde actuel. Et est-ce que c'est purement urbain. Je ne sais pas, il faudrait qu'on revérifie, ou en tout cas, elle ne l'a pas du tout mis en avant comme tel. Mais forcément, c'est ça qui ressort, parce que la ville, telle que je la conçois, c'est aussi c'est le lieu des manifestations. Enfin, quand il y a... Je connais moins... en tout cas, c'est l'endroit que je connais le plus, c'est sûr, donc, auquel je me sens le plus autorisée de parler. Mais,
Alors, voilà. comment tu as travaillé avec les artistes une fois que tu as eu un peu l'idée d'expo alors tu...
Je pense que pour certaines, j'avais déjà des idées quand même, parce qu'il y avait des œuvres dans leur pratique qui m'avaient vraiment spécialement marquée. Après, je pense que j'ai laissé... J'espère ne pas me tromper que les artistes écoutent ça, genre. Mais non, le choix. Enfin, vraiment, en disant, bien sûr, moi, ça m'a... Mais on en a vraiment discuté, ça, pareil, c'était au cas par cas. Il y a beaucoup de nouvelles productions, quand même, pour l'exposition. Mais il y a aussi des œuvres qui, déjà existantes, réadaptées.
Et il y aura une publication ?
Du coup, il y aura un petit fanzine de la traduction... faite avec Mona Varichon et Manon Michel de ces deux poèmes. Enfin, pardon, c'est pas des poèmes, c'est plutôt deux moments dans le travail poétique d'Anne Boyer. Du coup, ce sera le petit, la petite publication, les traductions en français.
Et qui sera libre en
portée. Oui.
C'est vrai, c'est génial. Ouais. Et ça vaudra pas le coup d'être édité aussi ?
On s'est complètement posé la question en se disant peut-être que ça pouvait servir de première étape. Là, du coup, c'est des fragments, c'est pas des œuvres complètes. On n'avait peut-être pas les moyens d'aller en profondeur, etc. Et du coup, on a fait une sélection de textes. Mais pourquoi pas ? Franchement, ça donne envie. Moi, je traduis. Mais d'ailleurs, Mona et Manon aussi avaient toutes les deux une pratique de la traduction. Et je pense que plus... il reste tellement de textes à traduire qui sont tellement bien...
Her wounds came from the same source as her power. Her wounds came from the same source as her power.
It only takes one blast and that ass will be ruined. Rip, 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 rip,
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.